Panorama Économique.
Madame, Messieurs, l'équipe des Panoramas Économiques vous retrouve pour la rétrospective d'actualité économique de la semaine sur Radio Capi. À la une de l'actualité, ce flou constaté dans la gestion des recettes du secteur minier. Pas de documents comptables au siège des entreprises citées. Les grandes opérations se font à l'étranger pour les minerais de la RDC. Les ONG qui dénoncent cette pratique affirment que c'est un manque à gagner énorme pour le gouvernement congolais. Et puis, le secteur électricité de la RDC doit être libéralisé dans un avenir proche. La Banque mondiale, qui le dit, estime que cela va permettre aux investisseurs de débloquer les fonds pour le développement du secteur hydroélectrique de la RDC. La primauté du fonds congolais dans toutes les transactions désormais en RDC, comment se fera exactement cette nouvelle réglementation d'échange? Réponse dans quelques instants. Panorama économique reçoit comme invité ce samedi Ernest Ampararo. Il est président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO en sigle. Bonjour et bienvenue dans notre émission.
Bonjour monsieur le journaliste.
Voilà la présentation de cette émission, Paul Matendo et François Kadima. Bonjour Paul.
Bonjour François.
Panorama économique, le dossier.
Voilà le premier dossier de cette émission. Les booms miniers de la RDC ne profitent pas du tout au trésor public. Les investisseurs dans le secteur de mines en RDC gèrent seuls les investissements sans l'œil de contrôle du gouvernement congolais.
C'est le cas des entreprises Tankefu Ngurume Mining et Kamuto Coppers Company, citées dans le rapport préliminaire publié mardi à Kinshasa par 15 organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs des ressources naturelles. Elles disent avoir mené leur enquête sur base de l'audit du gouvernement dans TFM et KCC. Constat dégagé, pas de documents comptables au siège de ces entreprises. Les grandes opérations se font à l'étranger pour les minerais de la RDC, ce qui occasionne des manques à gagner importants. Maître Georges Bokundu, chef du bureau Sarwa RDC, une des ONG qui ont participé à cette enquête, l'a dit au micro de Daniel Tambizoni.
C'est-à-dire qu'il y a 15 organisations de la société civile qui œuvrent dans le secteur des ressources naturelles qui se sont inquiétées par le fait que les booms miniers actuels qui a amené presque le pays à près de 1 million de tonnes de cuivre, presque 5 tonnes d'or et à peu près 100 tonnes de cobalt n'arrivent pas booster l'économie du pays. C'est-à-dire qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a eu réellement retombée que nous devions avoir? S'il n'y a pas eu de retombée nécessaire, c'est-à-dire il y a quelque part où la fiscalité congolaise ne se retrouve pas. C'est-à-dire que la fiscalité des autres pays profite du boom minier congolais. C'est-à-dire qu'on estime que peut-être il y a beaucoup de grandes opérations qui se font en dehors du pays pendant que les minéraux se trouvent dans notre pays. Ça, c'est un des deux. Oui. On regarde ces investissements, les petites enquêtes que la société civile a fait, on découvre que ce sont seuls les investisseurs qui gèrent les investissements. Le gouvernement se fie aux déclarations des entreprises. La preuve en est que c'est le gouvernement qui a initié l'audit, appelé audit BDO, auprès des grandes compagnies minières.
Il faut signaler ici que la société civile a mené ses enquêtes dans Tankefu Ngurume Mining et Kamuto Copper Company KCCM sigle.
Parce que le gouvernement avait initié l'audit sur les deux compagnies et que l'audit a posé des problèmes. Le rapport provisoire de ces maisons d'audit a soulevé des questions qui ont attiré l'attention de la société civile. Notamment les questions de la tenue des comptabilités en dehors du pays. Il ne faut pas oublier que dans le pays, les investissements miniers sont les plus importants. Et que si l'État ne tient pas compte, ne vérifie pas, c'est-à-dire qu'on laisse la liberté aux investisseurs de connaître seuls, de gérer seuls et d'amortir seuls ces investissements. C'est cela qui a attiré l'attention de la société civile, avec comme objectif final, c'est d'amener l'État à comprendre que la gestion de ce secteur, si on peut avoir des retombées, il faut nécessairement les gérer bien. Il faut les gérer bien parce qu'on les contrôle bien, parce qu'on les gère avec les partenaires. Il ne faut pas laisser la liberté aux partenaires de décider celle sur tout, sur l'emprunt et sur les remboursements, et sur la date qu'il doit commencer à payer les bénéfices.
C'était là Maître Georges Bokungu, chef de bureau de Sarwa RDC, une des ONG qui a participé à cette enquête. Alors nous avons comme invité, je le disais, M. Ernest Ampararo. Je rappelle qu'il est président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO. Monsieur Ernest, vous avez suivi ce rapport de 15 ONG dans le secteur de ressources naturelles, des tonnes de minerais, mais sans retomber pour le pays.
Oui, merci beaucoup. Effectivement, j'épouse l'idée et la déclaration de notre collègue Georges Bokundu. En fait, dans le secteur minier, pour que l'État se retrouve, il y a deux flics que le gouvernement doit maîtriser. Il y a la redevance minière et il y a l'impôt sur les bénéfices et profits. Or, la redevance minière, jusqu'à aujourd'hui, elle n'apporte absolument rien. Pourquoi ? Parce que il y a pas mal de services étatiques qui créent leurs propres, je ne peux pas dire, des taxes ou des frais. Et ces frais-là sont déductibles lorsque l'entreprise doit payer la redevance minière. Conséquence, il y a minorisation de la redevance minière jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices et profits, effectivement, les entreprises, comme l'a déclaré M. Georges Gokundu, les entreprises minières surévaluent leur investissement. Or, en surévaluant leur investissement, ils auront un temps ou un délai ou une période où ils ne pourront pas payer cet impôt-là, l'impôt sur les bénéfices et profits, et ce qui fait que le gouvernement risque d'attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, même 10 ans, sans toutefois avoir ce flux-là. En ce qui concerne le rapport que notre collègue Georges a dit, effectivement, nous nous posons des questions, étant donné que cela nous a beaucoup inquiétés. Il y a deux problèmes, il y a trois ou quatre problèmes dans ces sociétés-là. Les rapports énumèrent que les pièces comptables des TFM et des KCC sont basées à l'extérieur du pays. Deux, le 40% des recettes, de la vente des recettes minières, les 40% ne sont pas ramenés au pays. Troisième, les investissements, les auditeurs qui auditent ces entreprises minières, ils font des audits qui ne respectent pas les standards internationaux. Je donne un cas par exemple. Entre 2005 et 2009, PricewaterhouseCoopers audite ou certifie les comptes des KCC. En certifiant ces comptes, ils constatent que KCC n'a pas de pièces comptables à sur place au Congo. Mais Price and Watt certifie ces comptes-là. Et il dit, écoutez, Glencore a investi 1,3 milliard de dollars sans soubassement juridique ou sans soubassement...
Sans preuve.
Ouais. Et cet investissement de 1,3, Glencore le ramène lorsqu'il y a fusion entre KCC et DCP. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Glencore réclame qu'il a investi 4 milliards de dollars dans KCC. Or, pour qu'il puisse payer les impôts sur les bénéfices et profits, Glencore doit d'abord récupérer les 4 milliards avec les intérêts, ce qui pourra prendre peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, avant de commencer à payer l'impôt.
Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais est-il conscient de cette situation? Si vous dites que la fiscalité congolaise ne se retrouve pas dans ce boom minier.
Effectivement, j'ai l'impression que les gens de la GECAMINE avant, ils avaient déjà conscience à cela et ils ont diligenté les audits. Malheureusement, ces audits ne sont pas encore finalisés depuis 2012. Pour le gouvernement, effectivement, ils ont diligenté un audit auprès des KCC et des TFM et selon les dernières informations, ils ont élargi ces mêmes audits dans 10 autres sociétés minières pour effectivement certifier leurs immobilisations, savoir ce qu'ils ont investi, est-ce qu'ils ont investi 1 milliard ou est-ce qu'ils ont investi 100 millions et enfin dégager le perte que l'État pourrait enregistrer en se basant sur ces audits-là.
Monsieur Ernest Mpararo, est-ce que le problème ne se pose pas en amont, c'est-à-dire au niveau de la signature du contrat entre le gouvernement et les opérateurs miniers?
Effectivement, comme vous le savez, nous avions signé tous ces contrats dans une situation de faiblesse, nous étions en guerre, et la communauté internationale avec les institutions internationales nous ont fait pression pour qu'on puisse signer ces mêmes contrats et aujourd'hui nous en subissons les conséquences. Étant donné que nous étions en guerre, le pays était divisé en trois ou quatre parties, mais les gouvernants, ceux qui ont signé ce contrat, ont quand même signé. Et ce qui nous a, effectivement, il y a eu pression de la société civile, ce qui nous a amené à renégocier ces contrats-là. Mais sur ces deux contrats-là, TFM et KCC, leurs États, donc TFM étant une entreprise, TFM étant une entreprise américaine, le gouvernement américain a fait pression au gouvernement congolais pour que les contrats TFM ne puissent pas être renégociés ou revisités à fond.
Et aujourd'hui, on en paie des conséquences.
Ok, nous allons prendre notre deuxième sujet de la semaine. La Banque mondiale invite la classe politique congolaise à accélérer le processus de libéralisation du secteur de l'électricité. Ceci afin de permettre aux investisseurs de débloquer des fonds pour le développement du secteur hydroélectrique de la RDC.
Propos du directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC. C'était lors de la présentation des réalisations de projets financés par la Banque mondiale dans la province du Maniema. Pour la Banque mondiale, la RDC ne doit pas seulement compter sur le projet Inga, le pays disposant de bien d'autres opportunités. Les propos de Stache Waero sont recueillis par Emmanuel et la Major Kabidi.
La RDC est un pays qui doit être un pays riche, et ça tout le monde le dit. En fait, le défi pour nous tous, c'est ce paradoxe. Pays riche, 52% de toutes les eaux d'Afrique se trouvent ici. Mais il y a moins de 40% de la population qui a accès à l'eau. Donc c'est ce paradoxe-là sur lequel nous devons travailler. Nous avons besoin pour les infrastructures dans ce pays de dépenser 5 milliards de dollars chaque année. Quel est le budget de l'État? C'est 8 milliards. Qu'est-ce que la banque apporte? Entre l'année dernière et cette année, nous avons apporté 1 milliard de dollars. C'est insuffisant. Je me rends compte que dans ce pays, puisque ça fait maintenant plus de 2 ans que j'habite en RDC, certains croient que c'est la responsabilité des autres ou c'est la faute des autres. Et eux, ils se dédouanent. Mais tout le monde doit mettre la main dans le cambouis pour faire la différence. C'est l'effort collectif. Qu'est-ce que nous faisons ici en RDC? Nous intervenons en RDC parce que nous pensons que ce pays peut faire la différence pour l'Afrique. Et je vous dis que dans ce domaine-là, la Banque mondiale est alignée avec vous pour vous accompagner. Parce qu'on a besoin d'infrastructures. On a besoin de petites et moyennes entreprises qui se développent, qui créent, qui est harassée par les taxes et par l'administration. Et c'est pour ça que nous avons décidé de travailler pour réformer l'administration. On ne créera pas un climat des affaires propice pour le secteur privé. Nous n'avons pas une administration qui est efficace, qui est transparente et qui est crédible. On a parlé de l'électricité. Il y a 500 sites de production hydroélectrique dans ce pays, sur l'ensemble du territoire, sans avoir besoin d'attendre Inga. Et c'est pour ça que la nouvelle loi sur la libéralisation du secteur électrique est une loi importante qui va permettre de débloquer de nombreuses opportunités pour ce pays, sans avoir besoin qu'on fasse Inga en 2022. Et cette loi, il faut qu'elle soit promulguée. Elle n'a pas encore été promulguée. Et je compte sur vous tous pour faire en sorte qu'on puisse la promulguer, pour que ceux qui ont de l'argent et qui veulent produire de l'électricité, parce qu'il y a la matière première. La matière première, c'est l'eau et c'est la pente. Vous avez l'eau et vous avez la pente. Et vous pouvez produire de l'électricité. Et nous sommes prêts à accompagner le gouvernement, à accompagner les opérateurs privés, à créer les conditions pour que ce développement du secteur hydraulique puisse se mettre en place pour que le secteur privé puisse se développer.
Une nouvelle loi pour libéraliser le secteur électricité, a dit Serge Waïro, directeur des opérations de la Banque mondiale. Vous avez suivi, la Banque mondiale, comme on le sait, finance certains projets en RDC à hauteur déjà de plus de 3 milliards de dollars. Vous pensez que ça peut nous apporter un plus si le secteur est libéralisé comme estime le Serge Waïro?
Cette libéralisation ne vient pas de chez nous. Si la libération était congolaise, on s'approprierait. Or, aujourd'hui, si vous demandez combien de personnes connaissent qu'il y a une loi sur la libération de l'électricité, il n'y a que 1 sur 10. Ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, Inga 1, Inga 2 est des oubliettes. On nous avait promis qu'on va réhabiliter Inga 1. On va réhabiliter Inga 2 parce que Inga 1, Inga 2 donnent l'électricité au Bas-Congo, à Kinshasa, au Bandundu, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, Inga 1, Inga 2 est aux oubliettes. Banque mondiale, BAD, les autres, ils s'acharnent sur Inga 3. Or, en lisant les designs de Inga 3, il y a beaucoup, 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 beaucoup de questions que nous nous posons. On nous dit par exemple que Inga 3, ils vont produire 4800 MW d'électricité. Sur les 4800 MW, il y a déjà 2500 MW qui est déjà vendu à l'Afrique du Sud. Or, le gouvernement nous dit qui vont créer, ils vont soutenir les PME. Ils vont soutenir les PME alors qu'ils ont déjà vendu 2500 MW. Il reste avec 2300. Les 2300, il y a les miniers du Katanga qui est à court d'électricité parce qu'on leur oblige de transformer les minerais au lieu qu'on exporte les concentrés, ils doivent produire des cathodes. Or, elle-même demande 1300 MW.
Alors, mais pour que Inga marche, Inga 3 marche, il faut mettre la main dans la poche. La Banque mondiale finance déjà avec un fonds et il faudrait que tout le monde mette la main dans la poche pour que les choses marchent, c'est ça?
Effectivement, si on pouvait d'abord satisfaire les besoins locaux. À ce moment-là, on pourrait aussi voir maintenant comment est-ce qu'on peut satisfaire les besoins extérieurs. Or, les besoins nationaux, les besoins internes pour effectivement booster les PME, pour effectivement donner du courant à la population locale, ces besoins ne sont pas là. Il n'y a pas une urgence ici, ces besoins-là. L'urgence aujourd'hui, avec tout ce que Ouaro, tout ce que la banque nous dit, c'est qu'ils vont vendre de l'électricité ailleurs. Kakobola, Katende, vous nous attendrons pendant 10 ans. Ces projets-là ne réussiront jamais. Pourquoi? Parce que pour réhabiliter Katende, Kakobola et d'autres barrages, il faudrait qu'il y ait des apports extérieurs, étant donné que nous, Congolais, nous n'avons pas d'argent. Or, ces apports extérieurs, il y a la Banque mondiale, il y a la BAD, qui disent, écoutez, laissez d'abord les Kakobola, laissez d'abord les Katende, on va aller à Inga 3. Donc, tout l'argent Inga 3 va consommer 12 à 14 milliards de dollars.
Et Stache Aero compte sur la participation de tout le monde pour développer ces secteurs. Quelle peut être la part de la société civile?
Effectivement, si la loi sur l'électricité était congolaise, a été motivée par des soucis nationaux, on aurait fait des cotisations, 1 dollar par personne, et on aurait trouvé de l'argent pour financer Inga 1, Inga 2, qui pourra nous donner de l'électricité. Aussi, nous ne pouvons pas nous cacher de face, nous devons réformer la SNEL. Est-ce que la SNEL nous satisfait par les services qu'il nous donne? On devrait chasser tous ces directeurs, on devrait chasser tous ces comités de gestion là-bas. On installe une petite équipe pour effectivement engager des techniciens afin de réformer l'entreprise. Or, aujourd'hui, je vous dis que c'est une boîte qui ne nécessite même pas son existence.
Voilà, je rappelle que nous sommes dans Panorama économique et nous avons comme invité Ernest Mpararo. Il est président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO. Nous allons prendre le troisième sujet de la semaine. Nous vous le disions également en titre que la nouvelle réglementation de change en RDC instituée le franc congolais comme principale monnaie pour toutes les transactions. L'heure est à présent la sensibilisation de ce règlement qui entrera en vigueur le 25 septembre prochain pour les directeurs généraux des opérations de la Banque centrale du Congo. Tout le monde doit s'amender pour que cette mesure soit une réussite. Plus loin, une taxe sera instituée sur le transfert de fonds pour tout celui qui aimerait obtenir les devises en lieu et place des francs congolais. Jean-Louis Kaimbe est au téléphone de Daniel Tamizoni.
Les bailleurs doivent s'ajuster parce que l'État et les provinces, même les entités territoriales décentralisées, tout le monde doit s'ajuster et tout le monde doit changer. Il y a des taxes au niveau de provinces qui sont jusque-là libellées et payées en mairie, mais lorsque la réglementation va entrer en vigueur, tout le monde doit changer de comportement, que ce soit les bailleurs, que ce soit les autorités politiques administratives, que ce soit le gouvernement lui-même. Je crois que l'exemple vient d'en haut et le gouvernement déjà a donné les tons dans tout le discours politique. Maintenant, parlant de montants, et tous les montants sont exprimés en francs congolais. Et donc, que ce soit à partir de l'exemple vient d'en haut, des discours prononcés par le Premier ministre, le ministre, tout le monde est en train de s'ajuster pour œuvrer en faveur de la dédollarisation. Donc je crois que déjà si au niveau du gouvernement, les autorités sont en train de s'ajuster pour tenir compte de cette donne, et je crois que les bailleurs et les autres ne peuvent pas faire autrement. Disons, même la nouvelle réglementation consacre la détention libre de ces devises de monnaie étrangère. Plus loin, nous disons que les transactions sur le territoire national s'expriment en monnaie nationale, sauf bien sûr accord entre les parties. Donc, quand on dit que les devises continuent à circuler, il y a donc une circulation concomitante des monnaies. Nous ne sommes pas encore au niveau où nous interdisons l'utilisation des devises sur le marché. Maintenant, s'agissant des messages, nous sommes en train d'inciter les gens à utiliser les francs congolais. Qu'est-ce que nous allons faire? La deuxième étape va consister, par exemple, à introduire une taxe au niveau de transactions. Et donc, tout celui qui bénéficie d'un transfert, par exemple, qui veut qu'il soit payé en devises, peut être payé en devises, mais
il paye une taxe.
Nous allons donc essayer de mettre une taxe pour décourager les transactions en monnaie étrangère.
Voilà, c'était l'agent Louis Kembe, directeur des opérations de la Banque centrale du Congo. Paul, on en parlait d'ailleurs, tu as couvert une activité avec l'expérience de Pérou sur la dollarisation. C'est pas très facile.
Jean-Louis Kayembe appelle également tout le monde à favoriser les transactions sur le territoire national en francs congolais. Le rôle de la société civile.
Oui, merci beaucoup. C'est une bonne idée. Mais comme il a dit, l'exemple commence d'en haut. nous sommes dans un pays où les politiques aiment trop de discours, mais lorsqu'ils posent des actes, c'est contraire à leur discours. Ils peuvent vous prononcer un discours à 12 heures et à 15 heures, ils agissent différemment de ce qu'il a dit à 12 heures. Ce qui fait que nous, au niveau de la société civile, c'est une bonne idée. Nous devons promouvoir notre monnaie locale. Mais il faudrait que les autorités, effectivement, respectent la même réglementation. Et c'est ce qui pose le problème. Les partenaires extérieurs peuvent respecter cela. Mais si, deux ou trois jours, il y a X ministre qui doit envoyer de l'argent à sa famille en Équateur, il envoie en dollars, ça pose problème. C'est ça les grands problèmes.
Mais le fait qu'une taxe soit instituée pour ceux qui veulent déjà faire des transactions en dollars, vous voyez pas que ça peut également faciliter les choses?
Ça peut faciliter si effectivement cette même taxe est instituée aux transactions qui sont effectuées par les autorités, par ceux qui sont au pouvoir.
Qu'est-ce que vous avez constaté?
Nous avons constaté qu'ils commencent à créer des taxes et qu'eux-mêmes ne payent jamais. On nous a créé des taxes pour aller à l'aéroport, le GoPass. Est-ce que les députés payent? Est-ce que les ministres payent? Est-ce que les gouverneurs payent? Est-ce que les présidents de l'Assemblée nationale payent? Ils ne payent pas. Donc les taxes ne doivent pas être une taxe pour les uns, mais pour les autres, non.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres infos de la semaine en bref. Au sud Kivu, les denrées alimentaires comme les haricots, les arachides, le manioc sont de plus en plus rares et chers à Kalehe, particulièrement en Binga nord et sud. Cette situation fait suite à un climat de sécheresse qui s'observe sur place. Depuis le mois d'avril dernier, les pluies sont très rares et les habitants récoltent difficilement les produits agricoles. La société civile de Kalehe, qui lance un cri d'alarme, note que c'est pour la toute première fois que la saison sèche commence plus tôt que prévu. Le problème des déboisements serait l'une des raisons à l'origine de cette situation.
À Ituri, les opérateurs économiques doutent de l'effectivité de la relance industrielle telle que prônée par le gouverneur de la province orientale. Il s'agit notamment de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Boudana, la reprise de la pêche semi-industrielle au lac Albert et la reprise des usines de transformation des produits agricoles. Ce scepticisme a été exprimé mardi dans un échange avec l'Agence pour la promotion des investissements et financements de la province.
Le gouvernement a présenté la semaine à Kinshasa les réformes menées en juin 2013. À ce jour, dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires en RDC, ces réformes ont trait à 6 de 10 indicateurs du rapport Doing Business publié chaque année par la Banque mondiale. Célestin Vounabandi, ministre du Plan, affirme que ces réformes ont été menées sur la création d'entreprises, l'autorisation de bâtir, le raccordement à l'électricité, le paiement de taxes et impôts, l'accès au crédit et le commerce transfrontalier. Le gouvernement espère que la Banque mondiale en tiendra compte lors de son prochain classement.
À Goma, les quelques mesures opérationnelles mises en place par les autorités provinciales au port public de la SNCC afin de sécuriser les embarcations des petits et gros bateaux souffrent d'application. Ces mesures prévoyaient entre autres la suppression des services non autorisés à fonctionner au port, aéroport et poste de frontières. Cependant, les tracasseries entretenues par plusieurs services avant les embarcations et à l'arrivée des bateaux s'est multipliées, affirment les responsables lacustres. Et du coup, toutes les mesures restent une lettre morte.
Nous allons prendre M. Ernest Pararo. Un commentaire à placer sur l'une ou l'autre actualité passée tout à l'heure.
Oui, en ce qui concerne le doing business, effectivement, il y a beaucoup à faire. Je viens de Lubumbashi.
Oui.
J'ai été à Kasumbalesa. Les décrets du Premier ministre limitant les services aux frontières à 5 qui n'est pas respecté là-bas. À Kasumbalesa, vous allez trouver le bureau du commerce extérieur. À Kasumbalesa, vous trouverez le bureau des CSC. À Kasumbalesa, vous allez trouver le bureau, la division des mines qui est à Kasumbalesa. Et on nous dit qu'on est en train de réformer pour améliorer le climat des affaires. Le paiement des taxes. Un administrateur du territoire, il se réveille le matin, il crée une taxe de télage. Un autre à X endroit, il crée une taxe de l'eau. L'autre qui vient, il va créer une taxe de je ne sais pas de quoi. Donc, il y a des taxes concrètes, sans toutefois savoir ça sert à quoi, mais qui profitent aux personnes au lieu de profiter à la communauté.
Panorama économique, matière première.
La République démocratique du Congo dispose de 11 blocs pétroliers non encore attribués. Et le seul producteur du pétrole actuel de la RDC, Perenco, fait entrer 400 millions de dollars américains au budget de l'État. Propos du ministre des Hydrocarbures jeudi dernier lors d'un exposé à l'occasion de la semaine française de Kinshasa. À en croire Crispin Atamatabe, seule la loi portant régime général des hydrocarbures, une fois adoptée, pourra permettre d'aller au-delà de ce chiffre avec l'exploitation du pétrole par rapport aux mines. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Depuis 2009, on n'a plus attribué de blocs pétroliers. Donc, la décision de 2009 reste maintenue. Depuis l'époque coloniale jusqu'à un passé récent, la RDC a trop misé sur les mines. Ça ne nous a pas tellement fait avancer. Faites les bilans à la limite. Par contre, si vous faites une étude comparative avec les pays producteurs de pétrole, rien qu'africains, vous allez vous rendre compte que nous sommes en grand retard par rapport à ces pays-là. Ça va contribuer au budget national, mais je ne pense pas que ce soit au-delà de ce que le pétrole pourrait nous apporter. Une expérience avait été tentée en 1969 avec Chevron dans le bassin côtier. Les champs qu'exploite présentement Perenco. Ce n'est qu'en 2005 que le président de la République a décidé qu'il fallait orienter, tourner le regard vers le pétrole.
Monsieur Ernest, comment vous réagissez?
Vous savez, en matière de ressources naturelles, nous avons les mêmes défis à relever. Et le défi, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, on a attribué pas mal de blocs en Ituri. Il y a certaines entreprises qui ont payé pour accéder à ces blocs pétroliers. Mais qu'est-ce que les entités, qu'est-ce que les populations qui vivent en Ituri en bénéficient? Aujourd'hui, c'est zéro. Nous avons un système de gouvernance qui n'est pas transparent. Eux, lorsqu'on attribue des blocs pétroliers dans un système de transparence qui n'est pas transparent, nous, population, nous ne pouvons pas s'attendre à beaucoup.
Mais voilà, monsieur Ernest, nous allons finir par peut-être cette question. La Ligue congolaise de lutte contre la corruption, vous dénoncez plusieurs choses, mais comment vous faites pour quand même aider le gouvernement à s'investir dans tous les secteurs de la vertive et aider la population à accéder aux ressources naturelles? Nous avons parlé de mines et le pétrole également.
Effectivement, nous, au niveau de la LICOCO, nous disons, par exemple pour TFM, nous disons que tous les rapports que les auditeurs ont fait de TFM, le gouvernement doit les rejeter. Ils doivent diligenter des audits objectifs pour dire, écoutez, regardez ce que vous avez investi et vous nous devez ça. Et être intransigeant par rapport à cela. Ils ne doivent pas reculer, ils ne doivent pas subir des pressions des Américains. Parce que nous, Congolais, une société congolaise ne peut pas aller aux États-Unis investir et ne pas avoir des pièces comptables aux États-Unis. Ils auront la foudre du ministère de la Justice. Donc les autorités doivent faire respecter la loi. Nous voulons qu'il y ait des investisseurs et ces investisseurs doivent respecter nos lois. Ils ne peuvent pas s'adonner à la corruption et à la fraude. Donc nous disons au gouvernement, ils doivent tenir bon. Nous devons les aider à tenir bon et à faire respecter les lois.
Voilà, c'était Ernest Ampararo, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO, qui était notre invité dans Panorama économique ce samedi. Nous allons nous quitter là. Cette émission a été présentée par Paul Matendo et François Kadima. Paul, on retrouve les auditeurs la semaine.
Tout à fait, déjà lundi à partir de 18h15.
Voilà, la technique a été tenue par Jean-Noël Mokondo, sous la supervision de Nicole Ngaka. Voilà, on va se retrouver le week-end prochain. Merci beaucoup, monsieur Ernest.
Merci aussi.
Ok, au revoir et au week-end prochain. Ok, bon week-end.